défaire 12 kilomètres pour venir, mettons, coucher et manger à Rivière-du-Loup. Et puis après ça, faire un autre 12 kilomètres pour aller vers la Gaspésie et les Maritimes. Non, 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 non. Les gens vont s'en aller à Rimouski, c'est officiel. Écoutez, à Rimouski, c'est quand même une ville qui a une belle allure aussi, là. Alors, non, non, les gens vont s'en aller vers Rimouski, ils vont s'en aller vers la Gaspésie, c'est officiel.
Ouais. Donc, ça va être intéressant, M. Lortie, en 2025. C'est un dossier qui n'a pas fini de faire jaser parce que vous avez promis, vous, comme bien d'autres, de poursuivre le combat. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt en 2025.
On va être là.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lortie. Au plaisir. Donc, Gilles Lortie, qui est propriétaire, copropriétaire de l'hôtel Universel à Rivière-du-Loup, qui a été très actif dans les derniers mois dans cette campagne pour le maintien de la traverse à Rivière-du-Loup. Et vous l'avez entendu, lui a promis de livrer combat en 2025 pour maintenir le service de traverse à Rivière-du-Loup. Donc, on a fait le tour. Écoutez, ça n'a pas fini de faire jaser. Il y aura d'autres entrevues également lundi avec d'autres intervenants. Ça demeure le sujet de l'heure, puis un sujet extrêmement émotif qui fait énormément réagir. Honnêtement, je m'attendais pas à autant de réactions. D'ailleurs, ce matin, à tous ceux qui m'ont écrit là des messages, j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que ça vient autant par téléphone que par Messenger. Puis il y a des gens qui ont des opinions dans les deux sens. Des gens, puis je peux les comprendre en disant « Hey, ça s'en va à Kakuna, là. Tu sais, c'est 12 kilomètres, vous en faites tout un plat. OK, mais faut quand même pas oublier l'histoire rattachée à cette traverse, le fait que pour Rivière-du-Loup, là, il y aura quand même des pertes. Ces pertes-là, on pourra pas les calculer à court terme. Ça va être dans 10 ans, dans 15 ans, lorsque la traverse sera à Kakuna, si elle déménage, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est loin d'être fait. » Malgré l'annonce d'hier. Donc, écoutez, c'est ça. Nous autres, on fait le travail qu'on a à faire. On émet des opinions. Puis, comme je l'ai mentionné, c'est un dossier qui n'a pas fini de faire jaser. Puis, en passant, petit point. Hier, il y a une question qui a été posée. Parce qu'il faut pas oublier qu'à travers tout ça, le nouveau navire qui va remplacer le NM Trans-Saint-Laurent à partir de 2028, c'est le NM Saaremaa. Et lorsqu'on vous dit que parfois, il y a des journalistes qui posent de bonnes questions et les intervenants nous prennent parfois pour des naïfs, on va dire ça comme ça, pour ne pas utiliser d'autres mots, c'est qu'hier, je me souviens plus qui, on a posé une question sur le NM Saaremaa qui, depuis que le gouvernement du Québec a fait l'acquisition, il est rentré dans des quais, il y a eu des problèmes, puis Mme Greta Bédard, qui est la PDG de la Société des traversiers du Québec, a fait... Non, non, le NM Saaremaa, il n'a pas de problème. C'est un bon bateau. Puis, tu sais, avait l'air de pratiquement remettre en doute les informations du journaliste en question qui posait une bonne question, ou de la journaliste, honnêtement, je m'en souviens plus. Ben, sachez que le NM Saaremaa, officiellement hors service pour la saison. Article de Radio-Canada, Île du Prince-Édouard. L'entreprise qui gère les traversées entre la Nouvelle-Écosse et l'Île du Prince-Édouard a confirmé lundi que l'un des deux traversiers, le NM Saaremaa, ne sera pas remis en service d'ici la fin de la saison. Pourquoi? Bon, le navire était déjà à l'arrêt depuis le 22 septembre en raison d'une panne de l'un de ses deux moteurs, ou l'un de ses moteurs, pardon. Donc, le PDG de l'entreprise, Jeff Joyce, a déclaré dans un communiqué lundi, ça date du 14 octobre, que d'autres problèmes mécaniques du NM Saaremaa ont été détectés. On dit que ce navire a été emprunté pour 3 saisons à la Société des traversiers du Québec afin de remplacer un autre navire qui n'est pas en mesure de traverser en raison d'un incendie. Donc, on dit, une fois les réparations terminées, le NM Saaremaa sera préparé pour son voyage de retour vers le Québec, fort probablement à la fin du mois d'octobre. Donc, arrêtez de nous dire que ce bateau-là, c'est la perfection ou qu'il n'y a jamais eu de problème ou de feindre lorsqu'une question d'un journaliste arrive là pour remettre en doute ce navire-là, ben arrêtez de nous prendre pour des épais, là. Il y a un article daté du mois d'octobre qui parle de problèmes de moteur, puis le PDG de la compagnie à l'île du Prince-Édouard qui mentionne que quand ils ont fait des inspections, il y a d'autres problèmes mécaniques qui ont été détectés. Tu sais, c'est juste pour vous dire, parfois là, puis je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau là, mais parfois il y a des intervenants qui sont prêts à dire n'importe quoi pour justifier une décision, pour calmer la grogne ou des interrogations qu'on pourrait avoir. Et dans ce cas-ci là, c'est pas trop compliqué de savoir que le NM Saint-Rémy qui va prendre la relève à partir de 2028, c'est pas un navire qui est parfait, loin de là. Il y a eu plein de problèmes mécaniques dans les dernières années. Ce que le NM Trans-Saint-Laurent n'a pas eu, soit dit en passant, un navire qui est très, très fiable, parce qu'on peut compter pratiquement sur les doigts d'une seule main le nombre de fois où il n'y a pas eu de traversée en raison de bris mécaniques. Puis quand il y en a eu, c'était une traversée, deux traversées, une journée de traverse, là, où le temps de réparer ces petits bris mécaniques. On parlait pas de problèmes majeurs dans ce cas-ci. Donc, je tenais juste à souligner ce fait-là. On va faire la pause dans quelques instants. On va changer de sujet. On va aller à Témiscouata-sur-le-Lac. Hier, il y a eu dépôt de budget. Donc, on va en parler avec Denis Blais. Et à venir également, le commentaire citoyen, la chronique des Basques avec Jean-Pierre Rioux.
La magie des fêtes vous accompagne tout au long de cette belle saison. Concept plus RDL veut souligner votre engagement de la dernière année et vous souhaiter une nouvelle année pleine d'opportunités et de projets.
McDo a le cadeau idéal pour Alain, le voisin qui garde vos chiens, ou pour André qui vient toujours pelleter votre entrée. Et pour vous, parce qu'avec tout achat de 25 $ en carte McDo en restaurant, vous recevez un bon pour un Big Mac ou un McPoulet gratuit. Détails dans les restaurants McDo participants.
En début décembre, chez Oli, profitez de rabais variés dans tout le magasin, comme le matelas ressort québécois Matelas René Mino à partir de seulement 1059 $. En décembre, Oli offre de la qualité à bas prix abordable. Oli, matelas base élite.
L'actualité, notre passion, votre quotidien. C'est Bonjour Grand Portage. Ciel FM.
8h36. Hier, après une grosse journée où il a été question de traverse, retour à la maison, je prends soin des enfants, souper, les bains, dodo. Puis après, pour relaxer, il y a des gens qui auraient été tentés de prendre une bonne bouteille, un verre de vin, une bonne bière, écouter le football, écouter le hockey, faire autre chose, aller se coucher. Dans mon cas, je me suis dit, ça serait une bonne idée que tu tapes la séance du conseil extraordinaire à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac pour entendre parler du budget. Parce que je savais que j'avais une entrevue de prévue le lendemain, donc aujourd'hui avec Denis Blais, le maire de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, je me suis tapé ça. Ça a duré la séance peut-être 1h20, 1h30, peut-être. Honnêtement, je m'en souviens plus. Et surtout que le budget à Témiscouata-sur-le-Lac est toujours un petit peu plus difficile à comprendre que celui de Rivière-du-Loup, parce que il y a territoire cabaneau desservi, Notre-Dame-du-Lac desservi, cabaneau non desservi. Donc, le compte de taxes n'est pas uniforme partout, bien qu'on arrive quand même à une augmentation, on va dire, pondérée, là, une variation du compte de taxes pondérée. Et pour en parler ce matin, le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais, qui est là. Bon matin, M. Blais.
Bon matin, M. Beaulé. Félicitations pour votre courage hier après une bonne journée.
J'ai trouvé ça intéressant. Moi, j'aime ça, les budgets. Honnêtement, je commence à comprendre un peu plus. Et c'est vrai qu'à Témiscouata-sur-le-Lac, pour rappeler aux gens, c'est pas simple. C'est pas comme à Rivière-du-Loup. Il y a encore, on va dire, 4 comptes de taxes différents selon l'endroit où on réside, là. C'est de cette façon-là qu'on pourrait l'expliquer.
Oui, bien, évidemment, on est une ville fusionnée, hein, donc c'est sûr qu'il y a encore des dettes qui sont payées par les gens de Cabaneau uniquement. Il y a des dettes qui sont payées par la partie le quartier Notre-Dame uniquement. Donc ça fait en sorte qu'il y a des comptes de taxes pour les quartiers Notre-Dame et Cabaneau qui sont différents. Et on a aussi, évidemment, comme on n'a pas un réseau d'aqueducs et d'égouts à la grandeur du territoire, on a des gens qui sont desservis par les aqueducs et les égouts et d'autres qui ne sont pas. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a quatre présentations, je vous dirais, au niveau des impacts là, sur les différents comptes de taxes. Ouais.
Est-ce que ça achève le moment? Est-ce qu'on approche du moment où on aura, on va dire, desservi, non desservi, on comprend qu'il y aura toujours une différence, là, mais un compte de taxes, on va dire, uniforme, autant pour Cabaneau que pour Notre-Dame-du-Lac?
Ben c'est ce qu'on essaie de faire là. On l'a déjà dit, évidemment, une ville fusionnée à un moment donné va avoir juste un seul et unique compte de taxes identique pour les deux quartiers. Évidemment, le desservi, non desservi, ça va toujours rester. C'est quelque chose qu'on tend à essayer d'y arriver. Vous voyez là, quand on parle par exemple du desservi, là, quand on regarde là, les deux secteurs, il y a une différence. On a 7 $ de moins du côté de Cabaneau desservi que versus Notre-Dame. Fait qu'en termes d'équité puis d'équilibre, là, on n'est pas très très loin. Puis quand on regarde les noms desservis, c'est Notre-Dame qui paye un peu moins cher, à moins 61 $. Donc, on s'approche quand même de cette tangente-là d'avoir un compte de taxes presque identique dans les deux secteurs. C'est sûr qu'il y a Bon, vous avez eu le débat là, des dernières années concernant là, la mise aux normes de l'eau potable. Donc, Quartier-Cabanou avait fait sa mise aux normes avant la fusion. Notre-Dame l'avait pas fait. Donc, il y aura une partie de taxation qui va rester là un peu différente au cours des prochaines années. Mais je pense qu'en termes là, d'été puis d'équilibre entre les deux comptes de taxes là, des deux quartiers, là, c'est quelque chose qui s'en vient, ouais. Là, je vous dirais, là, de façon assez particulière.
Donc, si on revient au budget, bon, budget de 14,5 millions, budget équilibré de 14,5 millions, comparativement à 13,8 millions en 2024. Variation pondérée, parce que c'est le chiffre qui ressort de 3,22%. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce budget 2025?
Ben, je vous dirais qu'il est quand même... Le conseil, d'abord, je veux souligner qu'on l'a voté hier à l'unanimité. Donc ça, c'est déjà un bel élément que je tiens à souligner d'ores et déjà d'entrée de jeu. L'an passé, bon, il y avait des gens qui avaient voté contre le budget. Ouais. Donc ça veut dire que, bon, on a pris part aux discussions. Puis malgré qu'un budget n'est jamais parfait, les gens se sont entendus. On l'a adopté à l'unanimité. Donc ça, j'en suis satisfait. Je vous dirais que là... Il y a eu quand même un gros défi de dernière minute, là, comme vous le savez. On a fait des médias dans les dernières semaines là-dessus. Fameuse augmentation, là, je vous dirais, très, très substantielle de 39,8% de la SQ, donc 208 000 $. Donc, quand on prend ça en considération, puis on se dit, bon, on reçoit la lettre le 5 novembre, t'as 208 000 à trouver, ben, d'arriver avec une variation moyenne pondérée de 3,22, je vous dirais qu'on est satisfait, là, parce que je le mentionnais hier, là, grosso modo, l'ajout au niveau de la facture de la SQ, ben, c'est 50 $ supplémentaires, là, qu'on vient prendre dans les poches, là. Donc, si on regarde les variations, ben, c'est sûr qu'on aurait probablement, puis je ne veux pas faire de mauvais calculs, puis me faire reprocher dans une prochaine séance du conseil, là, on aurait sûrement été en bas de 3,22. Là, on aurait-tu été à 2, on aurait-tu été à 2,3, à 1,7, là, mais on aurait été sûrement plus bas que 3,22. Donc, faut se considérer satisfait malgré tout ça, là, dans les circonstances.
Ouais. Ce qui retient également l'attention, c'est que c'est une année de nouveaux rôles également à Témiscouata-sur-le-Lac. Le prix moyen de la maison à Témiscouata-sur-le-Lac est passé de 177 000 à 240 000 en l'espace de 3 ans. C'est quand même une augmentation de 35 %. C'est majeur. J'imagine que ça suscite de la crainte, bien qu'il faut quand même dire que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, c'est pas elle qui décide, là, c'est une firme externe. Mais j'imagine que ça, pour certains citoyens, c'est une source de crainte.
Ben, c'est sûr qu'hier, on a fait des précisions là-dessus parce que, évidemment, les questions sur le terrain, là, on est des petites municipalités. Moi, quand je vais à l'épicerie, je suis interpellé par des citoyens de dire, bon, M. Blais, on a eu nos prévisions de compte de taxes sur le site de la ville, 35%, j'augmente de 40%. On a même des gens qui ont augmenté au-delà de 60% leur valeur de maison. Donc, les gens se questionnent, est-ce que ça veut dire que mon compte de taxes va monter à cette hauteur-là? Évidemment, on a eu un exercice à faire là, de réétablir un niveau de taxation. Là. Notre compte de taxe est passé de 1,07 du 100 $ à 0,83 sous du 100 $. Donc ça fait un ajustement. Mais c'est certain qu'une augmentation de la valeur foncière, ça inquiète beaucoup les gens. Par contre, ben, ce que ça indique, c'est que les maisons se vendent bien. Moi, hier, ce que j'ai invité les gens à faire pour justifier ou pour questionner leur compte de taxe s'il était adéquat, ben, c'est toujours la même question qu'on doit se poser. Dire, demain matin, vous décidez que vous vendez votre maison, vous mettez une pancarte au chemin, vous la vendez combien, votre maison? Donc, quel prix vous demandez? Donc, si le prix demandé correspond au prix d'évaluation, ben, vous pouvez considérer que votre évaluation est juste. Si vous dites, ben non, je ne serais jamais capable de vendre ma maison à ce prix-là, ben, à ce moment-là, votre évaluation est trop chère et trop élevée selon votre perception. Puis, il y a des moyens là, pour contester tout ça. Puis si votre maison, ben, dit, hey, moi, je la vendrais bien plus cher que ça, ben, dites-le pas trop fort parce que probablement que vous êtes sous-évalué. Mais ceci dit, ça a amené un lot de défis très, très important cette année. Si vous avez écouté notre séance, là, a fallu expliquer tout ça parce que il y a des gens qui auront une augmentation de leur valeur foncière inférieure à la moyenne de 35,5 qui va probablement occasionner peut-être des légères baisses de taxes l'an prochain. Là, les gens pourront dire, ben là, ça n'a pas d'allure. Il y en a qui baissent de taxes, puis moi, je monte de façon plus substantielle. Ben évidemment, nous autres, on a un taux de taxation foncière pour la maison qui est unique. Donc, on n'a pas de taxes par secteur, puis à taux variés, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir une facture probablement plus élevée. Mais tu sais, il faut comprendre que présentement, Témiscouata-sur-le-Lac, là, avec l'attrait pour les régions, ben il y a des gens qui achètent des terrains là chez nous sur le bord du lac à 150, 175, 200 000 $. Fait que si moi, j'étais propriétaire d'un petit terrain sur le bord du lac, puis qui est évalué dans les dernières années à 80 000, mais qu'à côté, ça se vend à 200 000, ben, faut pas s'attendre à ce que mon terrain prenne pas de valeur. Donc, ouais. C'est sûr qu'il y a des propriétés, que ce soit des terrains ou des maisons, qui prennent la valeur en fonction du marché.
Ouais.
Puis ça, ben, c'est le rôle d'évaluation qui fait foi de tout. Puis comme vous le mentionnez, ben, c'est une firme externe qui fait l'évaluation de tout ça avec différents critères qui sont très légiférés. Là,